Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de l'émission Patara, aujourd'hui consacré à la nouvelle flambée de violence en Centrafrique, ainsi qu'à la problématique du renouvellement technique du mandat de la MINUSCA. Jeudi 15 novembre 2018, la ville d'Alindao, dans la Basse-Kotto, a été le théâtre d'une attaque perpétrée par des éléments de l'UPC d'Ali Darassa sur un site de déplacés. Selon un bilan provisoire suite à ces affrontements, 42 civils, dont 2 prêtres, ont été tués. Au chapitre réaction, la société civile a condamné les attaques de demandé à la MINUSCA le retrait des contingents pakistanais et mauritaniens basés à Alindao. Pendant ce temps, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont prorogé d'un mois le mandat de l'opération de maintien de la paix onusienne. Un sursis de 30 jours qui vise à permettre un renouvellement technique du mandat de la MINUSCA selon le représentant permanent de la France. La France a souligné la nécessité de maintenir le format et le mandat robuste de la MINUSCA et a souligné le soutien politique que la mission onusienne pourra apporter à l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine afin, dit-elle, de favoriser un dialogue direct et inclusif entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés. Elle a également mentionné le soutien supplémentaire que la MINUSCA pourra apporter aux autorités centrafricaines pour étendre l'autorité et l'État sur le territoire centrafricain. Mercredi 21 novembre, lors de l'interpellation du gouvernement Sarandi sur la recrudescence de l'insécurité dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, les députés ont exigé toute la lumière sur la montée de violence à Batangafo dans le nord et à Alindao dans le centre. Les députés ont souhaité que le gouvernement mette tout en œuvre pour protéger la population victime des groupes armés. Dans une longue intervention, le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandi reconnaît que le gouvernement a présenté ses limites. « Je savais que nous n'avons pas réuni tous les moyens nécessaires pour pouvoir protéger nos populations. Nos forces de défense et de sécurité n'étaient pas bien armées », a expliqué le chef du gouvernement qui promet de tout mettre en œuvre pour protéger la population. Question, qu'est-ce qui explique cette détérioration du climat sécuritaire dans les villes de province? Comment comprendre cette notion de prorogation technique du mandat de la MINUSCA? Le gouvernement Sarandi est-il dépassé par la situation? Autant de questions que nous allons aborder dans ce débat d'aujourd'hui, et c'est avec magistrat Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, un leader de la société civile. Magistrat Joseph Bindoumi, bonjour.
Bonsoir.
Monsieur Aristide Briand-Revois, président du Parti chrétien-démocrate, ancien directeur général des renseignements, expert en matière de droits de l'homme auprès de la Force régionale d'intervention de l'Union africaine pour la lutte contre la LRA. Il est écrivain en même temps observateur de la vie politique en Centrafrique. Monsieur Aristide Briand-Revois, bonjour.
Bonjour Hippolyte, bonjour les débatteurs, bonjour chers auditeurs.
Et monsieur Dominique Yandoka, président du mouvement ITA, un parti politique d'opposition démocratique en Centrafrique. Monsieur Dominique Yandoka, bonjour.
Bonjour Hippolyte, bonjour à tout le monde.
Et monsieur Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA. Monsieur Vladimir Monteiro, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Je signale en passant que j'ai invité à ce débat un représentant des pouvoirs publics qui malheureusement n'est pas présent au rendez-vous. Herman Dambouda à la technique, Hippolyte Marbois à l'animation.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekiluka.
Première question à vous, magistrat Joseph Bindoumi. La République centrafricaine a renoué ces derniers temps avec la violence contre des civils. Ces violences sont-elles justifiées selon vous?
Je voudrais rectifier que la République centrafricaine n'a pas renoué avec la violence. Cette violence-là est avec nous depuis 2013. Cette violence ne nous a jamais quittés. C'est la raison pour laquelle la société civile a toujours demandé que le langage officiel de ce qui se passe dans notre pays soit clair. Que nous sachions que notre pays est en guerre et que nous avons à plusieurs reprises insisté sur le fait qu'on dit les douloureux événements comme si c'était fini. On dit en sango, ouroubourou soit passé n'a été contrati comme si c'était des petits événements qui arrivaient et puis qui disparaissaient. Donc je crois qu'il ne s'agit pas de renouer. Nous sommes en pleine guerre depuis et les partenaires qui sont venus vers nous ainsi que tous les moyens que nous avons mis en œuvre ne nous ont pas permis à l'heure actuelle de finir avec cette violence et je crois que notre débat portera sur le point de savoir comment est-ce que nous devons aller vers la fin de cette violence.
Et justement, je parle de renouement en ce sens que nous avons connu quand même une longue période d'accalmie et que maintenant, tout d'un coup, on sent que ça éclate à Batangafo, ça éclate à Alindao, ça éclate à Bambari. Alors on se demande comment ça se fait
fait? Comment en est-on arrivé à connaître ce nouveau rebondissement dans la crise qui perdure depuis 2013, comme vous l'avez dit?
Je ne sais pas, je pense qu'il n'y a pas eu d'accalmie. La guerre, c'est comme un cours d'eau. Vous avez des vagues à un moment donné, puis ça fait semblant de couler simplement, mais nous avons toujours eu la guerre. Et puis, quand vous voulez savoir les causes, même les agresseurs eux-mêmes nous ont annoncé, à l'Indao, ils ont annoncé, donc ils nous ont dit, vous allez voir, nous sommes en délai, nous sommes en train de nous préparer pour aller envahir à l'Indao, à l'effet de descendre à Bambari et de poursuivre notre chemin. Mais la seule chose, c'est que dans un état de guerre, nous n'avons pas pris cette déclaration-là au sérieux.
Merci, magistrat Joseph Minoumi, monsieur Brignon-Roubois. Aujourd'hui, la crise, elle est réelle, hein, ça affecte une bonne partie du territoire. Qu'est-ce qui, selon vous, expliquerait enfin cette situation-là, ce rebondissement dans la crise centrafricaine avec les violences de ces derniers jours dans des villes qu'on a citées initialement?
Merci, Polyte. Je voudrais déjà commencer par dire qu'il n'y a pas une nouvelle crise, il y a une seule crise qu'on a essayé de régler depuis tout le temps et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat du manque de lecture de la réalité de la crise centrafricaine par les contingences historiques, par les autorités centrafricaines, par les centrafricains eux-mêmes, par les acteurs de résolution de cette crise. Et que j'ai toujours tenu un langage qui n'est pas variable. Ce que je dis, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est que nous méconnaissons la nature de cette crise et que cette crise qui aujourd'hui nous amène à regretter effectivement dans les derniers jours les événements de Alindao, tout simplement parce qu'il y a eu encore beaucoup de morts, il y a eu des prêtres qui sont fait tuer et que naturellement il nous faut repartir parce qu'entre-temps, en termes de résolution, à un moment donné, il y avait eu des efforts qui ont été fournis. Hein, à l'époque de Miska, à l'époque de Sangaris, à l'époque aussi de transition, il y avait eu des acquis et qu'on avait perdu. Et il faudrait remettre les choses là où ça devrait être pour commencer par poser maintenant la vraie problématique en matière de solutions associées avec des experts capables pour pouvoir aider à la résolution qui n'est pas définitive, mais qui va être toujours partiel jusqu'à la reconquête totale de notre territoire aujourd'hui entrecoupé par plusieurs bandes d'armes.
Vous pensez que cela pourrait prendre combien de temps?
Je pense qu'il y a une science qui étudie la guerre, ça s'appelle la polémologie. C'est-à-dire, quand une crise arrive, il ne faut pas être impressionné par l'horreur de la destruction après une guerre ou l'éclat du combat ou les atrocités. Mais il faudrait poser la question, comment ça s'est arrivé? À qui profite la guerre? Pourquoi on a eu la guerre, hein, et de quel droit? Et quand on arrive à faire ce qu'on appelle le diagnostic, tu peux avoir une maladie grave, compliquée, où on peut traîner le patient des hôpitaux à un autre, jusqu'à ce que les spécialistes arrivent et disent que voilà, il souffre de paludisme. Au lieu d'acheter peut-être de Doliprane ou de Nivaquine, sans des fois savoir, on risque de traîner le patient dans un bloc opératoire pour rien, alors qu'il lui aurait fallu seulement de quelques comprimés qui coûtent rien du tout pour régler cette crise. Donc on est passé à côté et je pense qu'on est là pour en débattre.
On est là pour en débattre, on arrivera justement à la question des solutions. Merci à vous, monsieur Aressi Brion-Rebois, monsieur Dominique Yondoka, en tant que président d'un nouveau-né dans la sphère des partis politiques en Centrafrique. Est-ce que cette crise que nous sommes en train de vivre, je parle de crise, bon, c'est crise dure, hein, depuis 2013, nous l'avons déjà souligné, mais avec ce rebondissement-là qu'on est en train de vivre ces derniers jours, est-ce que cela vous surprend?
Écoutez, je suis tenté de vous dire que je ne suis pas du tout surpris, tout simplement parce que, comme vous venez de souligner, ça fait depuis plus de 20 ans au moins que la crise perdure et qui continue. Malheureusement pour le peuple centrafricain qui, après des multiples efforts qui ont été consentis pour que ces crises puissent être résolvées, mais vraiment d'une manière pérenne, aujourd'hui nous sommes confrontés à une recrudescence de violence sans précédent. Et je suis tenté aussi de comprendre que ce n'est pas une stratégie cachée, parce que comme vous l'avez souligné ici dans les questions, pourquoi Alindao, pourquoi Bambari, pourquoi Batangafo? Est-ce que c'est un moyen de dissuasion? Pourtant, il y a 14 groupes armés qui sévissent dans le pays aujourd'hui. Et pourquoi que c'est que du côté de le tristement célèbre Ali Daras que ces violences puissent être accentuées? Donc, comme vous venez de dire tout à l'heure, J'en appelle plutôt à la vigilance et au sens de l'anticipation. Ce qui s'est passé à Lindao et à Batangafo ainsi qu'à Bambari, ce n'est que une partie de l'iceberg. J'ose le croire, maintenant, il revient de la responsabilité de nos autorités de prendre des mesures appropriées afin d'anticiper. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a que UPC qui a le droit de massacrer la population et d'autres, ils sont là, ils croisent les bras, ils attendent. Bon, pour éviter à ce que cela soit un effet...
Peut-être qu'ils sont dans leur stratégie aussi.
Justement, c'est là où nous devons être très vigilants. Parce que nos populations ont beaucoup souffert. Il est temps que cela s'arrête dès maintenant. Et j'en appelle à l'anticipation d'abord de ça et aux gouvernants de surveiller de près ces groupes, les autres groupes armés. Parce qu'eux, ils tirent leur profit en faisant du mal au peuple centrafricain. Nous, notre intérêt, c'est d'abord de prévenir et de prendre des mesures appropriées pour que cela ne puisse se reproduire. Parce qu'il y a eu quand même des aveux d'impuissance émanant de nos dirigeants aujourd'hui. Il est temps que cela puisse être vraiment traité en profondeur pour que nous passions vraiment à la pacification du pays dans la Serenité.
Merci, monsieur Dominique Yondoka. Monsieur Vladimir Montero, la République centrafricaine était en guerre. Ce pays est toujours en guerre. Et aujourd'hui, on parle de renouvellement technique du mandat de la MINUSCA. Qu'est-ce que cela signifie?
Merci. Avant tout, je voulais revenir sur les propos de mes trois prédécesseurs et dire que ce que j'ai remarqué, c'est que tous parlent d'une nécessité de réflexion, une espèce d'introspection pour essayer de connaître le pourquoi de cette crise. Cela veut dire que dans leurs arguments, on trouve des propositions qui sont autres que celles de l'usage de la force que nous utilisons, que les autorités centrafricaines qui ont le monopole utilisent, que certains secteurs de la société civile appellent à ce que ces ressources soient utilisées. Mais là, ces introductions appellent un besoin de se réunir, de savoir pourquoi. Et la solution de la crise, justement, c'est dans cette réflexion pour adresser les causes profondes. Adresser les causes profondes, il y a eu des rencontres qui ont lancé les pistes. Peut-être que ça n'a pas suffi, mais nous sommes toujours dans le temps du dialogue. Concernant le renouvellement du mandat, ça veut dire tout simplement que nous avions jusqu'à présent un mandat contenu dans la résolution 2387 qui avait été adoptée en novembre de l'année dernière. Il devait arriver à expiration la mi-novembre, le 15. Les membres du Conseil de sécurité ont trouvé qu'il leur faut un peu plus de temps, d'où cette extension d'un mois. Je voudrais également dire aux auditeurs que ce n'est pas la première fois que le mandat de la MINUSCA est renouvelé pour une période aussi courte. En 2016, il y a eu la résolution 2281 qui avait été adoptée en avril et cette résolution, elle a été prorogée jusqu'en juillet. Avril, juillet, ça veut dire entre 3 et 4 mois, pour permettre une revue stratégique, alors qu'ici, c'est pour des aspects techniques. Donc, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas une nouveauté pour nous, ça ne change rien. Ça veut dire que nous continuons à travailler sur ce qui est prévu dans la résolution 2387, protéger les civils, aider l'État dans la restauration de son autorité partout sur le territoire, appuyer les réformes comme la réforme du secteur de sécurité, le DDR ou d'autres aspects comme la justice et la défense des droits de l'homme.
Merci, M. Montero. Justement, sur cette question de renouvellement, magistrat Joseph Midoumi, pensez-vous que c'est une nécessité à l'heure actuelle pour la République centrafricaine que la MINUSCA voit son mandat se renouveler?
Bon, je voudrais que lorsque nous entamons des débats ici, surtout avec mon ami Vladimir, il faut qu'on évite de citer les résolutions 23-80. C'est redondant. Les populations qui nous écoutent sont noyées dans une affaire de résolution. Je crois que ce qu'il faut que nous disons autour de cette table, c'est de dire que depuis que nous avons commencé cette guerre et que les casques bleus sont venus en République centrafricaine, leur mandat était le plus fort des mandats accordés, chapitre 7. On appelle comme ça le mandat le plus fort, c'est-à-dire pour que la violence internationale soit supérieure au banditisme national. Est-ce que vous comprenez?
Oui.
Et donc, depuis 2013, le mois de septembre quand ils sont arrivés, jusqu'aujourd'hui, il y a toujours ce mandat fort pour protéger surtout les civils, les administrations et se mettre aux côtés de l'État. Donc, tout ce qu'on a eu comme résolution, je crois qu'il y en a une bonne dizaine.
Une vingtaine,
je vous remercie, je vous conseille. On a toujours parlé de la protection des civils, parlé d'un mandat robuste des Nations Unies, mais nous avons malheureusement remarqué que le nombre de victimes s'est accru. Et les méchants sont devenus plus nombreux. Ils sont passés de 2 à 14. Mais devant les Nations Unies, qui en même se sont permis de temps en temps de les transporter, de les recevoir, de vouloir discuter avec eux, parce qu'ils peuvent apporter la solution par le dialogue, etc. Donc, alors, du coup, le problème qui me préoccupe autour de cette dame n'est pas le renouvellement du mandat, parce que le mandat sera renouvelé. Alors, je vais vous dire une chose tout à fait ridicule. Si vous arrivez à Bangui, vous voyez au rond-point des Nations, à votre droite, quand vous allez vers l'université de Bangui, il y a une bande rôle sur laquelle c'est mis MDR. Le MDR, c'est en rouge. Et puis, MINUSCA doit rester. Et cette bande rôle qui est affichée derrière les forces de Nations Unies de l'autre côté de la route reste là depuis plus de 2 semaines, mais cette bande rôle n'est pas signée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une organisation, jeunesse, femmes, Ligue des droits de l'homme, qui ont mis cette banderole.
Elle est anonyme.
Elle est anonyme. Ça suppose que les MINUSCA qui ont vu leur nom affiché, qui ne se sont pas inquiétés de voir leur nom, revendiquer leur séjour, sont peut-être eux qui ont mis, parce qu'ils veulent rester en République centrafricaine. Alors, je les encourage à rester en République centrafricaine, mais à condition que ce soit pour protéger les centrafricains.
Alors, malgré cette assez longue présence déjà hein, de la MINUSCA en Centrafrique, M. Vladimir Monteiro, que les violences perdurent, les nombres de victimes continuent d'augmenter, comme l'a relevé le président Bindoumi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'un échec avoué?
Non, je ne parlerai pas d'échec et je pense qu'on n'est pas là aujourd'hui pour faire le bilan.
Oui, ni le procès de la MINUSCA, ce n'est pas le cas.
Surtout le bilan, parce que même si on parle du nombre de victimes, ce que nous déplorons, il y a eu des acquis, notamment face à ces groupes armés. Je prends l'exemple de la ville de Paoua où nous travaillons ensemble avec les FACA et cette intervention commune des deux forces a permis d'expulser les belligérants, ce qui a entraîné la réduction du nombre de déplacés. Ils étaient 80 000 concentrés dans cette ville du nord-ouest de la RCA. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que la MINUSCA a protégé les populations, a empêché les guerres, notamment lorsque les FPRC menaçaient d'attaquer Bambari, et a pris des dispositions là aussi avec les FACA sur cet axe d'Ekoasibut lorsque les FPRC a menacé
de marcher
sur la ville, et par rapport à Bambari, le départ d'Ali Daras. Ce n'est pas un échec, même si le représentant spécial qui était sur votre antenne ce matin le reconnaissait. Nous avons parfois des difficultés auxquelles nous tentons d'apporter des réponses avec des hommes, avec des déploiements rapides, mais il faut également tenir compte du nombre d'engagements en ce moment sur le terrain par la force, que ce soit dans cette zone d'Amadagaza, dans la Mambere Kadei, vers Paoua, vers Bangassou également, où nous sommes avec les FACA, à Bambari, où il y a une forte pression. Et nous faisons tout pour prévenir ces violences et c'est ce que nous allons continuer à faire. Je voudrais rassurer mon ami et président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme que ce n'est pas la MINUSCA qui a mis cette banderole. C'est peut-être des centrafricains qui reconnaissent cet appui et surtout ce partenariat entre la MINUSCA et les centrafricains pour trouver une solution. Si la MINUSCA, et je termine par là, à transporter des responsables de groupes armés, c'est dans le cadre des discussions. Que ce soit, et tout dernièrement, lorsqu'il a fallu se réunir à Boire pour cette réunion avec le panel de l'Union africaine, où nous avons transporté certains de ses représentants. Nous l'avons fait également de l'intérieur vers Bambari dans le cadre des discussions sur le DDR au sein du Conseil consultatif de suivi.
Merci, M. Monteiro. M. Aristide Brun-Robos, aujourd'hui, nous parlons du renouvellement technique du mandat de la MINUSCA. Vous, quelle lecture faites-vous de cela?
J'ai suivi avec intérêt l'intervention, surtout c'est ce que j'attendais, de M. Vladimir Monteiro, qui porte le parole de MINUSCA auprès de nous et que j'espère reportera nos paroles auprès de MINUSCA.
Je le ferai.
Et la MINUSCA est toujours à l'écoute de
cette déjà, émission. Pour la nécessité de renouvellement du mandat actuel de la MINUSCA, je pense que c'est quand même une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue. Mais une chose est vraie, il ne faut pas se voiler la face. De quel mandat il s'agit? Le mandat robuste. Je pense que le magistrat Bindoumi a dit à demi-mot, c'est le mandat le plus fort. C'est le mandat d'imposition de paix. C'est le mandat qui contraint au désarmement. C'est le mandat qui ne permet pas de discuter. C'est le mandat qui permet de dire aux bandits arrêtez. Et c'est un mandat qui est accompagné des moyens de tenir les gens, de contraindre les gens au respect. Okay? Et donc, bien avant ce mandat, il faut dire les choses clairement, de 10 avril 2014 à aujourd'hui, le 24 novembre, on peut dire que c'est depuis 4 ans, 7 mois et 2 semaines exactement que le mandat là existe. Okay? Dans les autres pays, pour moi-même, j'ai participé à des actions de cette nature à l'international où on a été au charbon et que la population, effectivement, les associations locaux nous ont aidés à des réflexions. C'est vrai qu'à l'époque où le mandat avait été signé, le MINUSCA avait quelques difficultés. Et ces difficultés sont beaucoup plus liées à la manque de lecture de la situation. Les MINUSCA étaient là, c'est des gens qui venaient un peu de pays extérieurs, qui ne connaissaient pas le pays. Alors que pour que ce mandat-là fonctionne, normalement, il fallait s'appuyer sur les entités de force de sécurité et de défense opérationnelle. Ça devrait les aider à gagner en renseignement, ce qui est important. Ils ont perdu tout le temps de chercher à se renseigner, de savoir qui est qui.
À étudier le terrain.
À étudier le terrain, et cela nous a fait perdre beaucoup de temps. Ce mandat, pour que ça fonctionne, voilà ce qui devrait être fait. Avant, il y avait une excuse, mais maintenant, il n'y en a pas. Que ce soit de la part du gouvernement, que ce soit de la part de la MINUSCA, nous avons une armée qui est dotée maintenant, qui est formée, qui a des armes. Et donc, il est d'une nécessité absolue que la direction stratégique en termes de réflexion opérationnelle soit partagée avec les experts centrafricains qui connaissent et qui maîtrisent le terrain. Et le secret des opérations mérite d'être mis en commun pour permettre d'être orienté sur les risques. Maintenant, il faut parler aussi de la nature de cette crise. Vous avez des belligérants, effectivement. Quand on parle de 14 groupes armés, c'est des belligérants aux ambitions opposées, qui de fois arrivent à se neutraliser mutuellement à pas de gain. Quel est l'objectif, par exemple, de l'UPC? N'attendez pas que l'UPC va au DDR. Ça n'arrivera jamais.
Et pourquoi? Pourquoi ça ne doit jamais arriver?
Tout simplement parce que les autres sont des rebelles à l'époque où le but ultime recherché, c'est d'atteindre le pouvoir de Bangui. Nous avons d'autres chefs rebelles qui cherchent seulement à territorialiser, à faire des affaires. Et si vous voyez bien, l'UPC ne fait que reprendre la vision de Babaladé. Il ne fait que reprendre ça exactement. Et je vous dis, de dossiers que j'ai eu à traiter, j'ai des éléments qui me permettent de dire ce que je dis. Et j'assume totalement. L'objectif de Babaladé à l'époque, c'était de mettre en place un gouvernement des peuples. Depuis le nord du Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Mali, etc. Le Mali. J'ai travaillé depuis longtemps avec d'abord le sultanat, qui est le premier sultanat de Niamniléwa. Et après, le sultanat qui nous a beaucoup aidé, c'est le sultanat de l'Est, là, de Oro Djafoun, qui à l'époque avait déjà apporté les informations sur le caractère dangereux de Babaladé, qui malheureusement, on l'a laissé traîner, il était venu, il avait été accueilli comme s'il était quelqu'un d'important. Vous voyez donc tout ça. Donc Ali Daras, aujourd'hui, a des affaires à faire. Ali Daras, aujourd'hui, reprend cette vision et n'attendez pas que Ali Daras va déposer les armes. Non, s'il n'est pas contraint, il le restera et il va faire encore pire. Maintenant, partiellement, je vois les signes que vous faites. Est-ce que le mandat que nous avons, est-ce que c'est vraiment robuste? Dans la pratique, je dirais non. Dans la pratique, c'est un échec. Mais l'échec, pour des raisons aussi que je vous ai évoquées. Mais aujourd'hui, si on renouvelle le mandat, il y a une nécessité de changer la nature de ce mandat. J'ai vu que la France qui tient la plume demande à ce qu'il y ait d'autres aspects politiques rajoutés et que la Russie aujourd'hui pense qu'il faudrait que ça puisse être mieux que ça. Vous avez les États-Unis qui demandent plus de temps. Mais une chose est vraie, dans ce système que vous voyez, le premier contributeur, c'est les États-Unis, c'est Donald Trump. Et c'est le président qui, aujourd'hui, malgré toutes les critiques, arrive à faire tout ce qu'il a dit. Hein? Il a dit qu'il veut réduire encore de moitié le budget pour la mission de maintien de paix. Je suis sûr que ça va concerner aussi la Centrafrique. Donc la surprise aussi sera de grande que de voir que le rendez-vous, les moyens espérés ne sera pas là. Et donc, naturellement, il faudrait commencer
par utiliser les moyens que nous avons, parce qu'on ne va pas à la guerre avec les moyens qu'on espère, mais avec les moyens de bord, les moyens que nous avons. Nous avons les moyens humains, nous avons les expertises de foi de la classe politique, de la société civile, des experts. Il faudrait que tout cela soit mis en commun pour permettre de mettre en place des visions claires et puis commencer par développer d'abord une vision globale. Parce que ce qui manque à la MINUSCA, c'est une vision globale. Daras a été chassé de Bambari, M. Vladimir a dit, mais il s'est retrouvé à Lindao. Faut pas qu'on le chasse.
La porte d'à côté.
Voilà, à Lindao pour se retrouver. Non, il nous faut un plan global. Avec, parce qu'il y a des centres de gravité mobiles de ces criminels. Et donc, il faudrait faire. Et encore, il y a quelque chose que j'aimerais signaler. Tous ces groupes armés ont quand même des représentants au gouvernement. Il faudrait déjà qu'au niveau d'ici, qu'on commence par le Parlement pour interroger les représentants au gouvernement, de voir ce qu'ils ont en tête et qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation et que les choses soient claires. Parce que s'ils sont dans le gouvernement et qu'ils informent bien les autres là-bas, ça risque de nous mettre. Parce qu'une armée est efficace si elle est bien renseignée et si le renseignement est bien conservé. Et donc ça, les fuites d'informations aussi nous a permis de manquer beaucoup de cibles. Et on a vu aussi dans le cas de la LRA, je reviendrai un peu dessus, mais c'est le problème de la MINUSCA aujourd'hui.
On a un exemple légion là-dessus. Merci à vous, monsieur Arisebrin-Rubois. Monsieur Dominique Yandoka, avez-vous le sentiment qu'il y a un lien, je dis un lien entre griffes, entre ce renouvellement technique du mandat de la MINUSCA avec la recrudescence de violence à l'intérieur du pays?
Je refuse de croire qu'il y a un lien. Pourquoi? Parce que nous, Centrafricains, on aime bien agir dans l'émotion. On est très émotif. Quand il y a quelque chose, on cherche toujours une cause, on cherche un alibi à lier notre malheur à, c'est la cause de telle ou telle personne. Voilà, c'est le sorcier. Je ne suis pas sûr. C'est juste, comme je vous avais dit tout à l'heure, dès le départ, que si nous ne nous prenions pas en amont, l'erreur avait été commise dès le départ. Quand le président Tondère avait gagné les élections, tout de suite, au lieu d'anticiper sur le... Parce que quand on parle de la déliquescence, que l'armée n'existait plus, ainsi de suite, oui, terme de soldats. Mais il existait encore. Quand le président Tondère avait pris le pouvoir, il existe bien. Le fondement, la base de l'armée centrafricaine, tous les généraux sont là. Tous les hauts gradés de l'armée sont encore là. Il n'y a pas plus longtemps, je pense, c'était en 2017, il y a eu un recensement de nos forces. Rien que dans le cadre de notre armée centrafricaine, il y a eu au moins plus de 7000 soldats qui sont disponibles, qui devaient être mis à disposition. Monsieur Rebois disait tout à l'heure, on ne peut pas remporter un combat si les services de renseignement ne sont pas fiables. C'est la base de tout. Pourquoi alors, à chaque fois, et quand, je ne sais pas, peut-être c'est le malheur, c'est le hasard, je n'en sais rien, mais je refuse de croire que c'est la MINUSCA ou c'est les Occidentaux qui manipulent parce que pour permettre à ce qu'il y ait un renouvellement de mandat, parce que les agents de la MINUSCA gagnent bien leur vie ici en République centrafricaine, c'est faux.
Oui.
Le problème, la raison ailleurs, la raison se trouve où? La raison se trouve, d'abord, nous ne devons pas confier notre sécurité, 100% de nos dispositifs sécuritaires entre la main de nos partenaires qui sont la MINUSCA ou les autres. C'est à nous d'abord. Il faut qu'il y ait un repli identitaire, une solution, un programme à la Centrafricaine. C'est à nos dirigeants de donner une orientation à la MINUSCA. Ce que nous constatons depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est la MINUSCA qui nous impose sa vision de la résolution de la crise. Or qu'il y a eu absence même d'initiative venant de nos gouvernements. Ce qui fait que à chaque fois, quand eux ils mènent des actions et ça ne répond pas à nos attentes. Nos attentes, c'est quoi? C'est de protéger nos populations. Donc je reprends toujours qu'il est important à ce que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités, imposer sa vision, parce que c'est lui qui doit
avoir
qui
le doit leadership,
le leadership sur la résolution de la crise.
Justement, oui, je posais justement cette question parce que on a une lecture générale qui s'est installée. On a vu depuis 4 ans que la MINUSCA est en Centrafrique. À chaque fois qu'on s'achemine vers le renouvellement de ce mandat, on passe d'abord à une crise. On connaît une période de turbulence sur l'étendue du territoire et c'est devenu, j'allais dire, un leitmotiv au sein de la population qui dit ben, à chaque fois qu'on s'achemine vers le renouvellement, on doit connaître des perturbations.
Mais nous, notre devoir, c'est de dire la vérité à nos populations. Parce que tout ce que nous sommes en train de vouloir avancer, ce ne sont que des suspicions. Est-ce que nous allons bâtir une paix sur la base des rumeurs?
Non.
Voilà. Il n'y a pas d'éléments de preuve prouvant que c'est la MINUSCA qui alimente la violence dans nos villes de province, ainsi de suite. Il n'y a pas. Donc nous devons d'abord, en tant que responsables, regarder la vérité. La vérité se trouve où ? Pourquoi ? Bon, écoutez, admettons que ça s'est produit hier, avant-hier à Lindao. Maintenant, nous ne voulons plus que cela puisse se reproduire. Nous devrions prendre notre responsabilité. Éviter à ce que cela se reproduise l'année prochaine. Peut-être il y a une période technique d'un mois qui avait été accordée pour le renouvellement effectif d'une période d'un an supplémentaire de la MINUSCA, mais c'est à nos autorités de s'affirmer. Il y a un aveu de faiblesse de part et d'autre et nous n'allons pas nous contenter à passer notre temps à pleurer, à pleurnicher et à chercher à accuser les uns les autres. Nous devons d'abord avoir une solution centrafricaine et leur imposer notre feuille de route.
Merci monsieur Dominique Yandoka, monsieur Vladimir Montero, vous avez suivi hein, monsieur Rebois qui a évoqué cette question de stratégie globale qui manque à l'opérationnalité de la MINUSCA. Est-ce que vous entendez ce message?
Merci beaucoup. Je voudrais très rapidement dire que les résolutions, parce qu'il faut les appeler ainsi, sont adoptées suite à un processus consultatif. Il y a des déplacements de missions de New York qui se rendent en Centrafrique et c'était le cas par rapport à cette prochaine résolution. Ils sont venus, cette délégation, elle s'est entretenue avec les autorités, avec la société civile, avec les partenaires sur place avant que des propositions ne soient faites. Des propositions, y compris celles faites par des Centrafricains. Je le répète encore une fois. Monsieur Aristide Rebois s'interroger sur des résultats de la précédente résolution, celle qui est en vigueur en tout cas jusqu'à présent. Je citerai tout simplement celle qui prévoit le déploiement progressif des FACA. Ce n'était pas le cas dans le précédent mandat, c'est le cas actuellement et sur le terrain, nous avons des résultats concrets. Pawa, Bangassou, Bambari. Non seulement les FACA, mais ce travail également avec les FSI. Ne serait-ce que cet aspect. Sur la coordination avec les autorités centrafricaines, notamment dans le domaine du renseignement, cela se passe. Cela se passe entre l'état-major de la MINUSCA, le commandant de la force, l'inspecteur de police, avec le chef d'état-major des FACA, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie. Il y a cet échange qui est régulier parce que nous considérons que, et c'est même dit par le secrétaire général lors de sa visite en 2017, que la présence et la participation et l'implication des autorités centrafricaines est essentielle. La sécurité n'est pas confiée aux partenaires. Ce sont les partenaires, ils ne sont là qu'en appui. Et j'ai cité tout à l'heure ces échanges. Et dans la résolution, il est dit que c'est aux autorités centrafricaines qu'il incombe de protéger les Centrafricains. Ce n'est pas nous. Pas plus que la question du dialogue. Ce n'est pas une vision de la MINUSCA, ce n'est pas une vision de la communauté internationale, même si on a ce panel de l'Union africaine, cette initiative pour la paix et la réconciliation qui est mise en œuvre par ces deux structures que sont l'Union africaine et la CAC. Mais au départ, il y a cet appel, cette main tendue du président de la République et toutes ces structures, l'UA, la CAC, les Nations Unies et en particulier la MINUSCA, travaillent dans ce sens.
Alors, mais pendant que vous avez la parole, hein, je reste avec vous, M. Montero. La société civile a justement demandé le retrait des contingents pakistanais et mauritaniens basés à Alindao. Est-ce que vous avez une réponse à donner à cette préoccupation?
Vous savez, il y a également des critiques à l'encontre d'un autre contingent, mais nous refusons de tomber dans cette discussion qui n'apporte pas grand-chose alors que les défis sont énormes sur les terrains. Lorsqu'il y a des problèmes en termes de performance des troupes, des enquêtes sont menées, des mesures sont prises. Ce que je veux dire aux auditeurs, c'est que par rapport à Alindao, il n'y a pas de Pakistanais, il y a des Mauritaniens. Et en ce moment, ce contingent, ces éléments, ces casques bleus ont été renforcés par des soldats de la paix d'un autre contingent. Et ensemble, ils font ce travail. Et vous le savez, les Nations Unies, c'est un ensemble de pays. La force de la MINUSCA, c'est également une partie de ces pays. Donc nous ne pouvons pas diviser ce qui a été construit depuis longtemps. Et c'est dans le cadre de cette unité de nos forces, de cette union avec les partenaires, que nous pouvons avancer. S'il y a des défaillances, le commandant de la force donne des instructions claires, des mesures sont prises lorsque cela se passe et s'il faut renforcer les moyens comme nous l'avons fait là par rapport à Lindao après les événements malheureux, surtout causés par la violence disproportionnée de l'UPC après les attaques des anti-Balaka, nous avons répondu. Mais nous faisons confiance à nos casques bleus tout en étant extrêmement exigeant. Mais que ce soit le représentant spécial, que ce soit le commandant de la force.
On a comme l'impression que la MINUSCA n'est là que pour appliquer sa logique et non être à l'écoute du peuple qui est le bénéficiaire des actions de cette force, justement.
Comme je l'ai dit, lorsqu'il y a des problèmes opérationnels, des enquêtes sont menées et s'il s'avère que des responsabilités sont établies, les personnes sont sanctionnés. Mais en même temps, ce même contingent qui est pointé du doigt, ces deux d'ailleurs qui sont pointés du doigt dans votre question, font un travail remarquable dans d'autres parties du pays. À Kagabandoro, ce sont ces Pakistanais avec d'autres contingents qui ont constitué ce premier barrage pour empêcher une éventuelle descente du FPRC. À Bambari, c'est également le contingent mauritanien qui fait ce travail. Donc nous tenons compte, nous écoutons ce qui se dit, nous travaillons surtout avec les autorités nationales, notre principal partenaire, et nous essayons ensemble d'apporter des réponses. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire les Mauritaniens, les Marocains, les Pakistanais, les Burundais, les Rwandais ou les Portugais, non. Il s'agit de dire que le problème, c'est l'UPC, c'est les anti-balakers qui ont attaqué, c'est l'FPRC, c'est la MPC par rapport à Batangafo, c'est Siriri du côté de la Mambere-Kadé, et ensemble, on pourra réduire leur menace. Par rapport au mandat robuste, et je termine par là, le représentant l'a répété, il y a le dialogue, on donne de la chance au dialogue, mais la force également, elle est là pour faire pression. Et elle sera utilisée lorsque le moment arrivera.
Merci Vladimir, je vois que M. Yandoka voudrait réagir.
J'aurais juste quelques questions à poser à M. Montero. Je voulais savoir quand même, vous savez très bien qu'Aline Daho n'est pas son premier forfait, on est d'accord. Il y a eu des précédents, il y a eu des violences.
2017,
voilà.
Entre autres.
Donc aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve dans une situation un peu plus compliquée. En 2017, il y avait déjà eu des tueries à Aline Daho. Et aujourd'hui, en faisant un peu les recherches, ils se trouvent sur le site de la MINUSCA. Ils ont dit qu'à Aline Daho, il y a eu seulement 79 soldats
de
casque bleu à Aline Daho. Mais tout en sachant qu'Aline Daho, c'est une ville où
la menace est réelle.
Pourquoi alors envoyer 79 hommes au lieu d'en envoyer
50.
50 ouais. Plus. Voilà, vous voyez, c'est encore plus bas. C'est encore plus bas. Donc, on ne peut pas. Et vous voyez la preuve. Aujourd'hui, 50 hommes ne peuvent pas combattre face à 300 ou 400 ou 500 hommes. Pourquoi n'avez-vous pas pris des précautions nécessaires en appui avec nos forces de l'ordre? Parce qu'il ne faut pas oublier, les FACA sont formés. Nous sommes pas plus tard que d'ici, nous sommes déjà 1600 hommes. Pourquoi n'avez-vous pas prévu d'augmenter cet effectif pour pallier à ce manquement?
Et pour compléter la question, voilà, le Premier ministre a mis en cause le manque d'anticipation de la MINUSCA. La MINUSCA a été alertée de l'imminence de l'attaque de la ville d'Aline Daho et la MINUSCA n'a pas également pris des dispositions pour prévenir cela.
Vous le savez, il y a un peu plus d'un an, la MINUSCA, notamment la force, avait revu sa stratégie qui consistait à réduire le nombre de postes militaires avancés. Justement parce qu'un poste militaire avancé, c'est environ 50 soldats de la paix. Et comme vous le dites, Aline Daho, quelques 30 000 habitants. Avec pour objectif, en réduisant ces postes militaires avancés, de concentrer les casques bleus dans des points stratégiques et pour une intervention beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Malheureusement, il y a, et vous-même, le président l'a dit, la violence ne s'est jamais arrêtée. De temps à autre, il y a des pics. Et face à ces pics, nous sommes obligés de mettre ces postes militaires avancés. Mais en même temps, je l'ai dit au début, il y a d'autres opérations militaires qui sont en cours. Nos 12 000 hommes, plus quelques 600 supplémentaires qui sont entre-temps arrivés, ils sont dispersés. Et il faut également que certains soient Bangui, parce que Bangui, c'est la capitale, c'est le centre du pouvoir. Donc, c'est par rapport à tout cela. D'où l'importance de ce déploiement avec les FACA. Par rapport à Pawa, il faudra interroger vos autorités, mais ailleurs ça se fait et ça se fait de manière progressive. Vous avez parlé d'Aline Daho, effectivement. L'année dernière, malheureusement, il y a eu des violences, encore suite à des incidents isolés qui prennent les proportions malheureuses. Et pourquoi ça prend ces proportions? Parce que, comme ça a été dit au début, il faut s'interroger sur les causes de ce mal. Il y a d'abord la violence aveugle, les intérêts défendus par certains groupes armés, il ne faut pas se voiler la passe, mais il y a également ce vivre ensemble, cette cohésion, cette acceptation de l'autre qui est difficile dans certains endroits, qui fait qu'il suffit qu'on allume une allumette pour que ça explose. Les communautés sont manipulées de part et d'autre et c'est pour cela qu'il faut travailler sur plusieurs aspects. Sur ce qui a été dit, le représentant spécial a rappelé les consultations régulières avec les autorités centrafricaines pour répondre à cette crise.
Merci, M. Montero, et président Joseph Bindoumi. Aujourd'hui, parlons justement de ce renouvellement technique du mandat de la MINUSCA. La France a mentionné le soutien supplémentaire que la MINUSCA pourra apporter aux autorités centrafricaines pour étendre l'autorité de l'État sur le territoire centrafricain. Avez-vous le sentiment que ce soutien est-il effectif?
Moi, il y a eu beaucoup de points qui ont été soulevés, sur lesquels je ne suis pas intervenu. Je pense que les auditeurs ont intérêt à m'écouter aussi sur ces points-là.
Mais ça va être rapide.
Oui, je vais être rapide. Le premier point, c'est que mon frère Vladimir a dit qu'ils sont 12 000 combattants. Ils ne sont pas 12 000 combattants, ils sont à peine 6 000 parce que le reste des autres 6 000, c'est des fonctionnaires bureaucrates avec une machine devant eux pour taper l'ordinateur toute la journée et rouler les grandes voitures. Et ceux qui vont sur le terrain ne sont pas 12 000. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais donner mon avis, c'est que on a dit à chaque fois qu'il y a un renouvellement du mandat de la MINUSCA, il y a des violences. Mais ça, c'est clair. Vous savez qu'en 2014, au moment où on approchait le mois d'octobre, il y a eu un pic de violence. À ce moment-là, on ne savait pas que le mandat devrait être renouvelé chaque mois de novembre. Il y a eu un pic de violence qui a contraint la réunion de Brazzaville et puis qui a permis qu'il y ait des consultations populaires à la base et quelques consultations populaires ont mené au forum de Bangui au mois de mai. Et puis, automatiquement, en octobre 2015, c'est-à-dire qu'on s'approchait de la fin de la violence, boum, il y a encore une autre violence suffisamment grave qui a obligé les chefs d'État qui étaient à l'extérieur de rebrousser chemin immédiatement avec ce que nous avons connu comme attaque de Fatima. En 2016, le président de la République étant absent, il y a eu au mois d'octobre, boum, une autre sorte de grosse violence qui précédait toujours le renouvellement du mandat de la MINUSCA. En 2017, nous l'avons connu. Et puis nous sommes en 2018, malheureusement, Vladimir.
Nous commençons
encore la même situation. Et donc, les esprits faibles ou les esprits ont compris que à chaque fois que le mandat doit être renouvelé, il y a des problèmes. Alors, sur ce point, je voudrais conclure que si les casques bleus constatent qu'il y a ce phénomène, les casques bleus auraient pu prendre les dispositions pour que, avant le renouvellement de leur mandat, le pays trouve un semblant total de calme pour montrer que leurs actions ont été payantes et puis qu'on peut renouveler leur mandat sans problème. Et puis, même s'ils devaient un jour mettre fin à ce mandat, il ne faut pas que ce soit comme au Rwanda où les gens ont été obligés de partir pour laisser sur le terrain un génocide, etc., etc., qui permet à d'autres pays de ne plus accepter les casques bleus, je pense au Burundi et aux autres pays. Donc, voilà les questions. Maintenant, vous m'avez soulevé le problème de la France qui veut nous donner des armes pour déployer notre administration. D'abord, je voudrais souligner que la France est ici en République centrafricaine depuis 1979. Elle est passée par l'opération
Barracuda
et puis l'opération Boali. Puis de l'opération Boali, nous sommes arrivés à l'opération Sangaris. De l'opération Sangaris, nous sommes arrivés à l'opération française de la MINUSCA déguisée. Et puis aujourd'hui, la France veut nous prêter des armes. C'est une bonne chose. Parce que si vous regardez toutes les violences que nous avons eues, qui ont pris une forme plus grave, toutes ces violences-là se sont réalisées, comme par hasard, en présence de la France. Et donc, à mon avis, c'est considéré comme un repentir actif. Si, après avoir vu souffrir beaucoup de gens, au dernier moment, vous dites « Oui, mais maintenant, je vais faire quelque chose pour que la situation s'améliore », très bien, pourquoi pas. On peut toujours se remettre en cause et puis continuer. Mais pour terminer, dire à la MINUSCA et à nous, au gouvernement centrafricain, c'est que dans mon organisation, nous sommes agacés lorsque on nous dit « On a formé 1000 militaires, on a formé 500, on a formé tel, on va déployer 1000 qui sont déjà formés. » Mais ça, c'est ridiculiser l'État centrafricain et c'est ridiculiser nos forces. C'est ridiculiser nos forces. Parce qu'avant cette guerre, nous avions une armée qui était estimée à 10 000 hommes. Et aujourd'hui, l'État centrafricain paye plus de 8 000 militaires, 8 000 hommes. Vous comprenez ? On n'a rien fait parce qu'on pense que ce qui n'est pas sorti des entrailles des missions des Nations Unies n'est pas propre. Ce sont des militaires qui ont défendu notre pays contre les phénomènes Zaragina, contre les braconniers, contre et puis qui sont allés à l'époque sauter sur le Kolgozi pour protéger la République sœur du Zaïre à l'époque. Et donc, nous avons des militaires aujourd'hui valides qui travaillent et qu'on peut utiliser. Et si les armes que la France veut donner peuvent permettre que nous déployons, non pas 200 ou 50 personnes à Lindao, que nous déplaçons 1000 hommes, 1000 militaires professionnels. Et je dis que un militaire professionnel égale 10 rebelles. Parce que lui seul...
Peut-être plus, non.
Alors, donc, vous êtes d'accord avec moi?
D'accord.
Et donc, je crois que le langage officiel devrait nous permettre aujourd'hui de dire, voilà notre armée. Et une armée se forme tous les jours, soit par recyclage, soit par formation continue. Mais l'armée est toujours en formation. Mais l'histoire de nous réduire à dire que nous sommes 1000 soldats formés, que nous allons déployer 1000 personnes formées, je crois que c'est ridiculiser notre armée. Et puis je voudrais pour cela que le langage officiel change sur cette question.
Merci à vous, Président Bindoumi, Président Rebois. Aujourd'hui, justement, cette question elle est posée. 1000 armes sont annoncées d'être fournies par la France pour équiper les FACA. Cette nouvelle vous enchante-t-elle?
Je pense que je vais commencer par m'aligner sur la position du magistrat Bindoumi et que déjà, il y a deux choses à souligner très vite. La première chose, ce n'est pas que le problème des armes. Nous sommes une armée, dès le début, j'ai dit, écrit, même sur RFI à l'époque, j'avais déjà dit que l'armée centrafricaine n'a pas besoin d'être formée. On est une armée qui se porte mieux dans la sous-région. Nous avons eu dans le rang de nos officiers aujourd'hui, depuis la petite école, des gens qui ont été formés pour défendre la patrie avec la philosophie, le respect de tout ce qui vont avec. Et ces officiers sont aujourd'hui là, de fois en responsabilité ou pas. Mais la nature de cette crise, effectivement, a été tellement singulière parce que cette dernière crise de 2013 a ébranlé nos institutions, nos mœurs, nos cultures et même nos systèmes de relations, y compris l'armée avec. L'armée a été effondrée et Dotodia, en venant, il avait même carrément limogé l'armée. Pourquoi l'armée a été limogée? Parce que avant cette crise, il y avait des médias de masse qui faisaient tout pour aider les Centrafricains à s'affronter pour des raisons confessionnelles. Alors que le problème était ailleurs. Et donc la mayonnaise entre-temps a pris. Il y avait l'émergence des anti-Balaka qui se dit milice chrétienne face à l'autre, la Séléka, confession musulmane. Alors que la crise était loin de tout ça. Et le fait de répéter à la longueur de la journée qu'on avait un conflit confessionnel, on a fini d'abord, le péché de la MINUSCA, et même des grandes puissances aujourd'hui, tous ceux qui nous aident maintenant, ils ont seulement donné une approche confessionnelle à une résolution d'une crise qui n'est pas du tout confessionnelle. Bon, à l'époque, quand on avait parlé de la nécessité de former les militaires, j'ai vu qu'il y avait un piège dedans. Tout simplement, parce que l'armée centrafricaine a besoin seulement d'être mobilisée. Et là, je pense que le magistrat Bindoumi, quand il était ministre de la Défense, il avait quand même posé un acte qui m'a surpris. Il avait quand même posé un acte qui m'a suivi. Il l'a mobilisé à sa manière et avec les moyens de bord. Les FACA se sont sortis, se sentaient regardés. Ils ont commencé par chacun occuper des postes de contrôle, chacun dans son quartier. Chacun protégeait son quartier. Et on a vu le résultat. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, quand le président Touadéra était arrivé, c'est vrai que ça me fait mal au cœur. Deux fois, ça me fait le cœur d'accuser effectivement le gouvernement dès les élections du président Touadéra. Il a été élu, mais il est tombé dans un piège tout de suite. Ce piège, c'est quoi? C'est le piège de soi-disant former l'armée centrafricaine. Nous avons 4 bataillons d'infanterie territoriale, vous connaissez bien. Dans chaque bataillon, il y a 4 ou 5 corps. Et dans le plan de formation que EUTM avait mis en place, il était question, soi-disant, de former, en 3 mois, on forme un seul corps. C'est-à-dire, pour former un seul bataillon, il faut au moins presque 1 an et demi. Et donc, si on continuait avec ce rythme, c'est naturel qu'on finira la formation en 2024 ou 2025. Est-ce que c'est des approches de l'urgence? Non,
Ce n'est pas des approches d'urgence. Nous avons une armée qui était prête, qui devait être mobilisée. Mais par contre, ce que vous ne dites pas, ce que la MINUSCA ne dit pas, ce que l'opinion internationale ne dit pas, c'est qu'ils ont pensé que l'armée était composée majoritairement des chrétiens. Donc il ne fallait pas les armer à l'époque pour ne pas qu'ils tuent les centrafricains de confession musulmane. Encore une grossière erreur. Là, il se pose maintenant en conclusion parcelle que
définitive.
Nous avons, bon peut-être quand vous voulez, aujourd'hui, nous devons saisir cette chance, que ce soit le gouvernement, que ce soit nous, que ce soit l'État, de dire que dans la plume, dans le projet de résolution qui est en train d'être élaboré
par la France,
il faudrait qu'on mette en place la levée totale des embargos sur les armes et après on va se débrouiller pour nous armer. Parce que l'embargo n'a que profité aux rebelles. Maintenant, laissez-moi terminer pour la dernière fois parce qu'il faut que je parle à M. Vladimir. J'ai vu dans son exposition que la leçon n'a pas été suffisamment tirée de cette situation. Et c'est dans votre intérêt de comprendre, de se mettre à la place de ceux qui souffrent. C'est vrai que la MINUSCA ne peut pas être accusée, ce n'est pas une organisation criminelle la MINUSCA. Mais comme partout, il y a des brebis galeux, donc il faudrait les repérer, les sanctionner. Et même pourquoi pas les sanctionner ici. Nous avons eu ce vendeur ambulant de munitions au kilomètre 5, le Gabonais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, mais ça c'est des faits graves. Et que cette raison d'approche confessionnelle de résolution a fait que ces Pakistanais, par exemple, un député avait dit, il va là-bas, même quand un parlementaire lui demande de l'eau, il demande s'il est musulman ou chrétien. Monsieur Dimbili avait dit ça sur ce plateau.
Exactement.
Et c'est normal que les casques bleus mauritaniens puissent aussi penser la même chose. Et donc, c'est quand même important. Et pour en finir, ça, je vais vraiment finir.
Je l'espère aussi.
J'en appelle parce que c'est vrai, ça me fait mal au cœur. Il y a longtemps que j'ai toujours milité pour la démocratie. Quand j'avais 19 ans, j'ai milité au sein d'un concept mis en place par Charles Massy qui s'appelait Comité d'information pour la défense de la démocratie. J'étais le représentant de la jeunesse. Pour moi, l'enjeu de la démocratie est vraiment nécessaire pour créer des conditions de paix, etc. Mais il faudrait qu'on puisse prendre nos responsabilités. À l'époque, avant vous, M. Bindoumi, il faut dire les choses. Nous avons des sociétés civiles à l'époque qui devaient effectivement avoir de bonnes idées. Qui était la société civile le jour et la société militaire la nuit? Nous avons aussi des groupes d'opposition politique qui étaient des groupes d'opposition classique politique le jour, qui étaient des groupes militaraux la nuit. Là, vous êtes en train de compter les 14 groupes rebelles. Mais il y en a plus. Ceux qui sont dangereux, ce n'est pas les rebelles là-bas. Mais ceux qui sont dangereux, ce sont ceux qui sont en ville, ici, qui se promènent avec des vitres fumées. Commençons d'abord par essayer, ça c'est la responsabilité du gouvernement, interdire les vitres fumées. Commencer par faire un vrai travail, parce que si vous travaillez avec le gouvernement et qu'il n'y a pas de résultat, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faudrait remettre les choses en cause, inviter aussi d'autres acteurs extérieurs, d'autres experts qui pourraient aussi vous aider. Parce que je vous dis, ce que je pense, c'est ce que certains hauts fonctionnaires des Nations Unies pensent. Quand je venais en France, j'étais dans le même avion que votre patron, M. Guterres. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me lève pour aller poser ma valise. Il se trouve que c'est là où il y avait le secrétaire général des Nations Unies parce qu'il n'y avait plus la place derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Je sors, il y a un de ses collègues qui était proche, que je tais le nom, qui avait mon livre entre les mains. Je dis, mais un député m'a appelé, M. Rebois, il dit, ah, c'est lui, donc il m'a rejoint, on a parlé. Mais je vous dis, ce que je dis, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'il y a eu manquement. Et aujourd'hui, les Américains sont réticents de financer cette mission à cause de cette situation. Il se peut qu'on se retrouve avec une mission non financée, pas avec le besoin d'ajouter 900 000 hommes, mais de réduire peut-être de la moitié. Mais là n'est pas la question. Une armée efficace n'est pas une armée de quantité, mais une armée de qualité. Une armée de qualité est une armée bien renseignée. Mettre les atouts de notre côté, orienter, avoir une stratégie globale. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Et tant qu'on n'a pas cette stratégie globale, nous allons passer comme ça jusqu'à même 20 ans. De toutes les façons, M. Onyanga avait dit qu'il fallait 40 ans. Déjà, même le fait de dire ça, c'est un aveu de faiblesse. Donc, tout ça, là, il faudrait prendre en considération et essayer d'apporter des solutions juste à la résolution de cette crise qui n'a que trop duré.
Merci, Président Robo. Je vois que nous avons largement dépassé notre temps d'émission. Nous allons donner la parole très rapidement à vous, M. Montero, pour clôturer. Je vais m'excuser auprès de M. Ndoukan.
Très rapidement.
Et peut-être qu'en répondant, vous pouvez également nous dire un petit mot sur ce qui se passe au PK5. Depuis plus d'une semaine, on assiste à des tirs sans arrêt.
Très rapidement, par rapport à PK5, des affrontements entre groupes armés. Il y a eu également des affrontements entre groupes armés et les forces de l'ordre. Nous accompagnons la situation. Vous aviez invité un représentant du pouvoir, mais je ne peux m'empêcher d'être interpellé sur la question concernant la déclaration de M. Aristide Reboy et le chef de l'État et la formation des FACA. Je pense que le chef de l'État a une vision et dans le cadre de sa stratégie, il y a une formation qui est en cours, qui est apportée par différents partenaires pour doter le pays de structures qui puissent protéger les populations et permettre à l'État d'être présent partout. Les 40 ans évoqués par le représentant spécial du secrétaire général en Centrafrique n'étaient pas un aveu de faiblesse ou d'impuissance, c'était de parler, de rappeler les difficultés, mais également tout le travail qu'il faudra faire, notamment à travers le dialogue, pour régler cette crise centrafricaine. Mon ami Bouindoumi, tout à l'heure, avait dit qu'on n'a pas 12 000 personnes sur le terrain. On n'a pas 12 000 militaires, mais 6 000. La MINUSCA, c'est un peu plus de 13 000, 14 000 personnes, dont 12 000 militaires, environ 2 000 policiers et un millier de civils, parmi lesquels des centrafricains. On n'est plus dans le temps de s'accuser. Je pense qu'on n'est plus dans le temps de s'accuser.
Vous n'avez pas dit combien de fonctionnaires qui sont seulement dans les bureaux?
J'ai dit un millier. un millier. Quelques mille. Voilà. Mais les hommes en uniforme, c'est 12 000 soldats plus quelques 2 000 policiers.
Donc c'est à tort qu'il y a eu 50 personnes à Lindao?
Non, ce n'est pas tort. 12 000 soldats, vous savez, ça représente quoi? C'est un soldat pour chaque 10 km carrés en Centrafrique. Si on tient compte, si on devait éparpiller et déployer tous ces soldats. Tout à l'heure, vous aviez parlé de renouvellement, le lien entre renouvellement et recrudescence de la violence. Non, ce n'est pas le cas. C'est une manière de dire que la MINUSCA serait derrière ces violences. Pas du tout. Les violences, on connaît les auteurs. Et d'ailleurs, au mois de mai, il y a eu les événements de Bambari et ce n'était pas un moment de renouvellement du mandat. Novembre, ça coïncide également avec, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur, avec la fin de la saison de pluie, le début de la saison sèche, donc la transhumance. On a également une cause interne à la crise centrafricaine. Donc il y a tous ces aspects. La MINUSCA n'a pas adopté une approche confessionnelle du conflit. Le conflit centrafricain, c'est des groupes prédateurs, des groupes, comme vous l'avez dit, M. Aristide Reboy, qui sont là soit pour contrôler les ressources minières, pour contrôler le commerce du bétail, etc. Et ce sont ces gens-là, et dans le cadre de la stratégie, parce qu'il y a une stratégie, la stratégie c'est de réduire leur présence et leur menace, mais à travers le dialogue, en dialoguant, en discutant et à un moment, frapper.
Ça ne frappe pas encore.
Si, ça frappe. Mais
dites-moi quand même.
Ça frappe parce qu'il y a ces opérations qui sont menées et je les ai citées tantôt.
Merci.
Mais les 40 ans, c'est quand même exagéré. Hein.
Merci à vous, M. Vladimir Montero. Nous arrivons ainsi au terme de ce débat. Patara sur Radio Ntekiluka, qui, je le rappelle, a été consacré à la nouvelle flambée de violence en Centrafrique ainsi qu'à la problématique du renouvellement technique du mandat de la MINUSCA. Merci à vos chers invités, merci à tous les auditeurs de Radio Ntekiluka. Patara, c'est tous les samedis sur les 100.9 FM. Herman Lambona, la technique, Polit Merbo à l'animation, vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre thématique.